Direct en jeu, la radio insolite. Après avoir fait un tour au Tibet, après avoir fait un tour au Mont Blanc, tout droit, direction cette fois-ci, l'histoire de l'alpinisme avec une très grande dame. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, alors j'ai dit Catherine, il y a beaucoup de Catherine. Mais Catherine d'Estivelle, c'est, on peut appeler ça quoi, une fan de l'alpinisme, une férue, une passionnée?
Ouais, une passionnée depuis toute jeune, depuis l'âge de 5 ou 6 ans.
Ah, carrément,
Et, ah
5 ans.
oui, j'ai beau être parisienne d'origine, bah, quand on sort des pays plats, on a envie d'aller dans le grand air et dans les montagnes. Du coup, voilà, et mes parents, moi, je voulais être bergère et mes parents m'ont dit, écoute, apprends déjà à grimper parce qu'on habitait pas loin de la forêt de Fontainebleau. Puis après, on verra, puis c'est parti comme ça.
C'est vrai que quand on est en région parisienne, enfin à Paris, en région parisienne, on pense tout de suite à Fontainebleau.
Bah oui.
Mais il y a plein d'autres endroits dans le monde entier pour aller se balader.
Il y a plein d'autres endroits, ouais, et puis notamment bah, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est les Dolomites. Les Dolomites, c'était les pionniers de l'escalade, en fait, là-bas. C'est là-bas qu'ils ont inventé le piton, c'est là-bas qu'ils ont inventé le mousqueton et qu'ils ont inventé les chaussons d'escalade, enfin les espadrilles pour grimper. Donc c'est un lieu mythique et c'est des rochers. Ouais, la Dolomie, en fait, ça a été Dolomieu qui avait identifié cette roche et qui a donné le nom aux Dolomites. Et c'est une roche particulière, une calcaire un peu particulière. Et voilà. Donc c'est un massif qui est assez étendu, hein, c'est assez grand. Et j'ai pas en tête, mais je dirais 300 km sur 300, quoi, en gros.
Et pour ceux qui savent pas où se trouvent les Dolomites.
Les Dolomites se trouvent au nord de l'Italie. Voilà. Dans le
D'accord.
nord de l'Italie, c'est une région assez riche. Et donc, il y a des stations de ski. Cortina d'Ampezzo fait partie des Dolomites. De Cortina d'Ampezzo, il y a eu pas mal de championnats de ski. Pour ceux qui connaissent pas bien l'Italie, c'est une station assez connue. Et à côté de Cortina d'Ampezzo, il y a des parois magnifiques qui s'appellent les Tre Cime di Lavaredo. Voilà.
C'est naturel ou ça a été taillé?
Non, c'est complètement naturel. Et donc les grimpeurs, les premiers grimpeurs, y a eu les exploits de Paul Preuss notamment, qui a été l'inventeur du libre. Alors pour expliquer aux gens, le libre, c'est lui, il a refusé complètement l'utilisation de la corde et des pitons pour, il pensait que c'était tricher. Enfin, c'était son éthique. Du coup, il faisait beaucoup de solos et malheureusement, il en est mort. Mais il a refusé. Alors, ce qu'on appelait l'escalade libre, c'est de grimper sans artificiel, sans artifice. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, nous aujourd'hui, l'escalade, c'est de l'escalade libre, mais avec une corde. C'est-à-dire qu'on ne cède pas de la corde pour monter. La corde, elle est là uniquement pour la sécurité.
Oui, parce que
Parce
j'ai.
qu'à l'époque, quand ils avaient la corde et les pitons, ils se tiraient dessus. On tirait sur tout ce qui bougeait, enfin tout ce qui était non fixe, pardon. Et du coup, et donc on appelait bon ça, on appelle ça l'escalade un peu artificielle. Donc jusque dans les années 70, 80, on va dire 80, les gens grimpaient c'était pas du libre, ils grimpaient dès qu'il y avait un piton, ils tiraient dessus. Où ils en mettaient un pour s'aider.
D'accord.
Et après, la règle a changé. Il y a des pitons pour l'assurance, mais le jeu, c'est de pas tirer dessus, d'essayer de pas tirer dessus pour progresser. Mais c'est juste un jeu, hein. Si on n'y arrive pas, on peut tirer.
Oui, ça, oui, c'est un jeu. Oui, moi, je me vois très bien en train de pratiquer ce jeu-là. Là, il n'y a pas de souci.
Donc dans les Dolomites, c'est le livre que je viens de publier, qui a été écrit par Barney Vaucher, qui est un féru d'escalade depuis toujours, et qui a grimpé avec Georges Livanos. Georges Livanos, c'est un Marseillais qui a ouvert plein de voies là-bas. Et donc en fait, parce que pour un grimpeur, les Dolomites, c'est un paradis. Il y a plein de voies. Alors ça fait quand même, ça fait entre 100 mètres et 300, 400 mètres de haut pour les plus grandes.
J'ai demandé.
Donc c'est oui, c'est assez haut, hein. Donc on part à la journée, voire 2 jours parfois, ou 3 jours pour certaines parois. Enfin, à l'époque, ils grimpaient en plusieurs jours des grandes parois. Donc ils bivouaquaient sur des vires, voilà, pique-nique et tout sur la vire avec le sac de couchage. Mais bon, voilà, ce sont des grandes parois, c'est l'aventure, c'est la montagne. mais avec que de l'escalade. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de glacier, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de. Sauf l'hiver, évidemment, mais ce sont des parois verticales, voire des versantes. Les Trecchim du Lavaredo, c'est entre le bas et le haut, je crois qu'il y a 20 ou 30 mètres de dévers. Donc c'est énorme. Et quand on est dedans, par contre, bah, ça semble pas si. Enfin, c'est raide, hein, c'est magnifique. Puis il y a des prises partout, mais ça, on voit. On grimpe pas forcément tout le temps en dévers, quoi. C'est assez étonnant. Voilà.
Juste
Et
une question indiscrète, c'est quoi des rives?
en surplomb?
Oui, quand vous dites qu'on grimpe, il faut
De
deux, trois
dévers, en
jours.
dévers, en
Ok,
dévers.
ouais.
En dévers, ça veut dire que le bas de la paroi est plus enfoncé que le haut. Le haut, il déborde. Ça fait comme un toit.
D'accord.
Donc, au pied de la paroi, c'est sec. Du coup, parce que c'est la paroi, elle est surplombante. En dévers, quoi. À l'envers, quoi.
D'accord.
Comme un grand toit, mais pas si grand que ça, parce que sur une paroi qui fait 400 mètres avec 30 mètres de haut, 30 ou 40 mètres de dévers, ça se voit pas tant que ça, mais
Ouais.
voilà, c'est quand même dévers. Si vous faites tomber, voilà, si vous faites plonger votre corps du haut jusqu'en bas, bah, elle arrive à 300, à 30 mètres du pied de la paroi.
D'accord,
30 ou
oui.
40 mètres, ouais.
Ça fait un peu haut quand même,
Ça fait déversant, c'est déversant, ouais, c'est déversant. Comme une cuillère, en fait, un peu. Voilà. Et alors, les Italiens, quand je dis que c'était des pionniers, c'est eux qui ont imaginé de grimper avec des espadrilles dans les années 1910. Parce qu'au départ, avant, ils grimpaient avec des chaussures à clous. Les grimpeurs, même dans les Alpes, hein, pensaient, mais les clous, ça glisse sur du rocher. Le métal contre le rocher, c'est pas terrible. Alors, ils ont commencé à grimper avec des espadrilles. Ils appelaient ça des chaussures de chat. Gâteau, c'est le chat. Bon, scarpé des gâteaux. Enfin, c'est des petites chaussures de chat. Et nous, en France, à Fontainebleau, on a piqué l'idée. Enfin, est arrivé. Les gens commençaient à grimper en espadrilles à Fontainebleau. Et très vite, il y a eu un gars qui s'appelle Pierre Alain, qui a mis de la gomme sous l'espadrille pour l'adhérence. Et donc, c'est devenu le chausson d'escalade. Voilà. D'aujourd'hui, encore aujourd'hui. C'est la même chose, mais sauf que c'est beaucoup plus sophistiqué. C'est des chaussons d'escalade. Maintenant, j'ai vu que dans les grands grimpeurs, aujourd'hui, les plus forts, en tout cas, ils changent de chaussons en fonction du rocher et de la voie qu'ils vont gravir. Donc, ils ont X paires de chaussons, et en fonction de la structure, de la température, de la technique, ils vont utiliser différentes paires de chaussures.
C'est quoi le défi quand on va dans les Dolomites?
Le défi, bah, c'est d'abord se faire plaisir,
C'est
et
important
parce
quand
que
même.
c'est magique. Il y a des voies très faciles, avec des grosses prises tout le long. On a l'impression d'être très fort, et c'est assez agréable. C'est très beau parce que c'est très vert. Au pied, il y a des grands alpages avec aussi, bah, pas mal de forêts de sapins. Et tout de suite, on arrive dans de la verticalité, et c'est assez proche des villages. Du coup, c'est agréable. C'est pas, on part pas dans l'aventure est au coin de la porte, quoi. C'est pas
D'accord.
si compliqué d'y aller, d'accéder à ces parois, donc c'est très agréable. Bon, l'Italie, évidemment, c'est très agréable aussi. On mange bien. Voilà, c'est un bel endroit, les Dolomites.
Ça se fait
Il y a
plaisir.
plein de lacs, il y a plein de lacs, il y a plein de chemins pour marcher, il y a plein de randonnées. Et puis des via ferrata. Alors, les via ferrata, elles ont été construites pendant les guerres, là. Enfin, les dates exactes, je ne les connais pas exactement. Mais ils ont installé des échelles de fer et des passerelles un peu partout pour faire la guerre, en fait, au départ. Et puis maintenant, les via ferrata, c'est devenu ludique. Les gens font de la via ferrata pour s'amuser, donc elles sont mieux équipées, et donc il y a plein de familles qui, comme ça, déambulent dans toutes les Dolomites, grâce dans les airs d'ailleurs, grâce aux via ferrata. Donc ça, c'est abordable par tout le monde. Et ça, c'est unique, hein, en Europe, d'avoir un lieu comme ça, avec autant de via ferrata qui semblent naturelles, parce qu'en fait, elles ont été installées depuis si longtemps. Et voilà, donc ça, c'est les Dolomites, c'est ça aussi. Donc le livre que j'ai publié parle un petit peu des Via Ferrata, mais pas tant que ça. Mais surtout parce que bon, Marnie il connaît très très bien l'histoire des Dolomites. Il raconte ça de façon assez précise par rapport à justement ces Via Ferrata. Mais ensuite il développe toute l'histoire de l'escalade depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les grimpeurs d'aujourd'hui, c'est un peu la Mecque hein, d'aller grimper là-bas, parce que on n'utilise pas de piton à expansion. C'est-à-dire que y a des voies très dures et sans utiliser ce que les pitons à expansion, c'est des chevilles que vous enfoncez dans la roche, dans lesquelles vous vissez un boulon. D'accord. Et avec une plaquette pour s'assurer. Ça là-bas, on le fait pas. C'est l'éthique. On respecte cette éthique et on ne plante que des pitons. D'accord. Ou des coinceurs. Mmh. Les coinceurs, ce sont des coins métalliques qu'on coince dans les fissures et qu'on le retire. Enfin, ça se pose très facilement et ça se retire très facilement. Donc ça, c'est une escalade assez naturelle. Et c'est magique, ouais. C'est bien. Et donc, il y a tous les niveaux. Il y a pas mal de guides de montagne qui travaillent là-bas pour tous ceux qui aiment l'escalade. Du coup, sont assez présents sur les lieux. Et toute l'histoire, en fait, l'histoire est magique. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on grimpe une voie, on s'imagine les premiers grimpeurs dans les années 20, 30, 40, qui ont imaginé l'itinéraire et qui à l'époque, avaient un autre matériel que ce qu'on a aujourd'hui, d'ailleurs.
Moi, je me demande comment est-ce qu'ils faisaient, hein. Franchement, je...
Bah, ils étaient forts, et puis, voilà... Après, ils mettaient peut-être un petit peu plus de temps que nous, et puis non, mais c'était une autre aventure, on va dire. Ouais.
Évidemment, quand même, n'importe qui ne peut pas aller là-bas.
Si, faut... n'importe qui peut aller là-bas.
Ah, mais il faut pas avoir déjà une pratique.
Bah, grimper, oui. Si vous, faut quand même savoir un minimum grimper. Et puis, si vous prenez un guide, si vous savez grimper, il peut vous emmener dans beaucoup d'endroits. Après, y aller tout seul, c'est un terrain d'aventure quand même. Donc, il faut apprendre les techniques avant d'y aller. Bon, faut être un grimpeur un peu plus aguerri, ouais, effectivement. D'accord. Mais faire des Via Ferrata, par exemple, tout le monde peut y aller. Il suffit de. Bah là, je vais publier un livre d'ailleurs qui est là-dessus, qui s'appelle Les Via Ferrata, tu connais. C'est pour les enfants, mais en fait, les adultes vont apprendre plein de choses. Et c'est comment on fait pour évoluer en toute sécurité sur une Via Ferrata. Aujourd'hui, il y a plein de sites en France qui équipent des falaises, même dans des endroits où improbables, où on peut pas imaginer qu'il y ait des falaises. Dans la Drôme, par exemple, il y a des petites falaises ou dans les un peu partout en France, dès qu'il y a une petite falaise, il y a des communes qui installent des Via Ferrata pour amuser les touristes quand ils viennent ou la population. D'ailleurs, c'est très marrant en fait. C'est pas de la vraie escalade, mais c'est amusant parce qu'on prend tout de suite de la hauteur et que c'est le grand frisson.
C'est un peu comme les parcs Acrobranches qui
voilà, qui sont c'est pareil, qui, sauf que c'est sur la roche.
D'accord.
Voilà. Ouais.
Il faut pas avoir comment dire de zut, quand on est en hauteur, il faut pas avoir le
vertige.
Le vertige, voilà, merci.
Voilà, le vertige. Alors, le problème du vertige, c'est qu'on peut avoir peur, mais c'est pas forcément du vertige. Le vertige, c'est un vrai problème de d'oreille interne. Il y a des gens qui, effectivement, ont un petit souci dans leur oreille et dès qu'ils montent sur une échelle, ils peuvent pas, en fait. Ils sont. Donc ça, c'est autre chose. La peur, c'est ça s'apprivoise. Enfin, on s'habitue à la hauteur. Moi, je recommande toujours, quand je grimpe avec des amis débutants, je dis, tu montes à 2 mètres, tu redescends, tu remontes à 3 mètres, tu descends. Et comme ça, on s'habitue doucement.
Il y a des paliers.
Oui, avec des paliers, voilà. Donc, pour s'habituer à la hauteur, quoi. Mais les gens vraiment sujets au vertige, il n'y en a pas tant que ça, hein. C'est assez... Les gens disent qu'ils ont le vertige, mais essentiellement, c'est la trouille.
Oui, je peux le comprendre. Quand on n'est pas habitué, je peux le comprendre.
Voilà, ouais.
Ok. Les éditions du Mont Blanc, c'est spécialisé tout ce qui est escalade, alpinisme ?
Oui, édition du Mont Blanc. Alors, je l'ai créé, enfin, je m'en occupe depuis, créé il y a 12 ans, mais je m'en occupe vraiment depuis 10 ans. Et il y a 5 collections, des collections beaux livres, des collections récits, des collections livres techniques et une collection jeunesse et une collection de thrillers. Donc la jeunesse, Moi, j'aime bien m'occuper de la jeunesse parce qu'en fait, il y a peu de livres qui expliquent ces activités depuis le début, depuis toujours. L'escalade, par exemple, j'ai publié un livre. Il y a toute une collection qui s'appelle la collection Tu connais. Et la collection Tu connais, j'ai fait l'escalade, tu connais. L'alpinisme, tu connais. Les fleurs des montagnes, tu connais. Là, il y avait Aferrata, tu connais. En fait, c'est pour expliquer l'activité, mais depuis le début, c'est-à-dire comment c'est né, comment les gens ont eu l'idée de, par exemple, de grimper. Grimper, au début, c'était naturel. Les gens se protégeaient en montant sur des falaises pour se protéger de l'ennemi ou des animaux, etc. Et puis, progressivement, avec le temps et le luxe, parce que enfin, c'est un luxe hein, de pouvoir aller s'amuser à grimper, voilà, c'est devenu une activité sportive. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est aux Jeux Olympiques. Donc, voilà, cet été, vous avez, en France, on aura la deuxième session, la deuxième fois que l'escalade va être présentée aux Jeux Olympiques. Et il y a des murs d'escalade qui se créent partout. Je sais pas, dans les villes, en tout cas, pas mal. Et bon, voilà, c'est un sport qui est très, très en vogue en ce moment. Hein. Et donc cette collection pour la jeunesse, j'explique un peu toutes les activités, l'alpinisme, comment c'est né, la Via Ferrata, comment c'est né exactement, etc., etc. Et voilà.
D'accord.
Donc.
Le livre Les Dolomites sort bientôt, je crois.
Mercredi, ouais,
D'accord.
mercredi prochain, en librairie.
Ok.
Et donc il fait 400 et des poussières pages avec plus de 200 photos.
Ah, quand même.
Et puis un texte très sympa parce que l'auteur nous raconte les Dolomites depuis le début de l'alpinisme jusqu'à aujourd'hui. Donc ça se lit même si on n'est pas grimpeur parce qu'en fait c'est assez marrant. Enfin voilà, il raconte toutes les histoires comment les premiers grimpeurs s'y prenaient pour gravir ces parois.
Oui,
C'est marrant.
ça fait un peu rêver, quoi.
Ouais, c'est très très. Oui, moi, en tout cas, moi, la première fois que j'avais lu le texte, j'avais lu d'une traite. Et c'était assez.
Ah
Voilà.
oui.
Donc, ouais, c'est sympa.
Ok, bah parfait.
Voilà.
Bah, si vous voulez vous faire plaisir, je vous rappelle, dans le cadre des éditions du Mont-Blanc, donc le livre qui sort bientôt, qui s'appelle Les Dolomites, vous pouvez aller sur le site des éditions du Mont-Blanc, vous pouvez aller chez votre libraire pour commander, et comme ça vous fera un peu rêver. Merci Catherine.
Merci à vous.